Nous sommes le 12 septembre 2013. Je vais vous demander de vous présenter.
Alors, je m'appelle Marie Gillet. Je travaille à l'Union Auboise et je suis responsable du marketing et de la communication pour le champagne de Vaud.
Vous êtes née où et quand ?
Je suis née en 1953.
Le jour ?
Le 9 février, donc je suis Verseau. C'est très important. Et à côté de Meaux, en Seine-et-Marne.
Et que faisaient vos parents ?
Mon père était instructeur à Paris pour des gens qui apprenaient à conduire des autocars. Et maman travaillait à la Société Générale.
D'accord. Du ronflement,
un
petit peu.
Ben oui, c'est ouais. Je ne sais pas d'où vient ce ronflement, cette fois. Peut-être de la pièce d'à côté. Possible.
Et donc, est-ce que vous pouvez me dire sur votre enfance, hein? Est-ce que vous avez eu des frères et sœurs?
Alors, j'ai une petite sœur, mais qui a vraiment, nous avons 15 ans d'écart, donc je pense qu'elle est arrivée tout à fait par hasard. Ceci dit, quand elle était toute petite, on la prenait un peu pour ma fille. Aujourd'hui, nous sommes vraiment deux très grandes amies. J'ai plutôt été élevée chez ma grand-mère maternelle, parce que mes deux parents travaillaient et qu'à l'époque, c'était difficile de mettre les enfants en crèche ça n'existait pas. Donc j'ai été élevée en tout cas la semaine, j'allais en classe dans le village de ma grand-mère, je logeais chez elle. Et j'avais la chance d'habiter avec trois de ses fils qui à l'époque étaient célibataires, à peine plus âgés que moi et qui donc étaient mes grands frères. Voilà.
C'était où ça ?
Et c'était près de Meaux, donc en Seine-et-Marne.
D'accord. Vous saviez un peu ce que vous vouliez faire quand vous étiez à l'école ?
À cette période-là, non, parce que ça c'était vraiment l'école primaire. Quand j'ai été au lycée, j'étais assez bonne en langue, à vrai dire, donc je me voyais plutôt professeur d'anglais ou quelque chose comme ça. Mais je n'avais pas d'idée très précise, non, j'avais pas de vocation. Voilà.
À ce moment-là, c'était en quelle année le lycée ?
Ça, c'est une excellente question. Alors, je suis née en 53, le lycée, ça devait être en 63 ou 64, oui. Oui. Donc je suis allée à Meaux. Mes parents ont déménagé, ont acheté un appartement à Meaux et c'était plus facile pour moi de vivre avec eux à partir de ce moment-là où j'étais avec eux tout le temps.
Et vous êtes orientée vers l'université ?
Alors après ça, le bac passé, j'ai passé un bac littéraire. Et le bac passé, je suis allée en fac et comme c'était après 68... mes parents ne souhaitaient pas que je fasse mes études à Paris, ce qui aurait été totalement logique puisque Meaux est à 40 km de Paris, et donc m'ont inscrit à la faculté de Reims, parce que c'était la plus proche après Paris, en anglais justement, voilà. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari qui lui faisait une prépa à l'école de commerce de Reims. Et c'est ainsi que je suis arrivée en Champagne. Voilà.
Qu'est-ce que vous connaissiez du Champagne ?
Mais rien du tout, je ne savais même pas. À l'époque, aujourd'hui, on boit du Champagne un peu pour un oui, pour un non. En tout cas, oui, enfin, la plupart du temps, on boit beaucoup plus de Champagne qu'avant. Dans ma famille, on n'en buvait jamais. Donc je savais que ça existait, mais je ne savais pas ce que c'était. Je situais à peu près la région. Quand mon mari m'a dit qu'il habitait dans l'Aube, je situais ça du côté de Nancy, tout à fait à l'est. Et quand je suis arrivée ici, en fait, mes beaux-parents vivent à Neuville-sur-Seine, ce qui est encore à 10 km d'ici. Vraiment, pour moi, c'était assez l'aventure. Et quand je suis arrivée dans cette région pour la première fois, pas juste passer quelques jours, c'était en 1974 ou quelque chose comme ça. La traversée de Troyes n'était pas restaurée à l'époque, c'était très triste. Et puis arriver ici, c'était vraiment la campagne, quoi. C'était voilà, c'était très rural, on va dire, et un peu effrayant.
Et à ce moment-là, au niveau de justement de l'exploitation, de ce que voulait faire votre mari, comment est-ce que...
Mon mari, bien sûr, comme beaucoup de fils de vignerons, ne voulait surtout pas travailler dans les vignes. Et donc, il avait fait une école de commerce avec option marketing et voulait vendre des bateaux à voile ou des motos de trial parce que ce sont ses deux passions. Ça l'est resté, du reste. Et en fait, il est passé de l'école de commerce de Reims après la prépa, est allé à Dijon, a terminé l'école de commerce de Dijon. Et avait trouvé un job, je crois, à La Rochelle ou quelque chose comme ça, chez Beneteau. Mais son père, qui avait créé la coopérative vinicole de Neuville-sur-Seine, Champagne-Clérambault, lui a demandé de faire un stage de 6 mois pour régler certains problèmes financiers, économiques, commerciaux de la coop qui était toute. Qui était en train de se développer vraiment, quoi. Et voilà, et donc 6 mois là-bas. Il est ensuite resté, je crois, 5 ans après les 6 mois de stage. Et puis après, il est arrivé ici à l'Union-Amboise, dont le
Et
directeur partait en retraite.
vous, comment est-ce que vous avez vécu ces premiers 6 mois? Parce que la Rochelle, c'est assez actif.
Oui, j'étais très contente qu'on parte au bord de la mer. Ceci dit, bon, à l'époque, j'avais quel âge j'avais? J'avais 22 ou 3 ans. C'était pas très. Nous vivions dans une jolie maison à Neuville. Une des tantes de mon mari nous avait prêté sa maison d'été, donc c'était parfait. Je n'avais pas de boulot. J'ai pas trouvé de boulot tout de suite ici. Donc voilà, ça a été aussi le moment de la naissance de notre première fille. Donc c'était beaucoup d'événements en même temps. Et non, c'était assez rassurant, je dirais, comme expérience. Voilà.
Et donc les 5 ans ont suivi, vous vous êtes dit, on ne va plus à La Rochelle.
Oui, oh non, on avait absolument oublié l'idée. Oui, tout à fait. Après ça, mon mari. Donc, a dirigé cette coop, a créé le nom Clérambault, enfin, a créé une histoire autour de Clérambault. Il a apporté tout son savoir marketing. Donc, il a travaillé avec une agence parisienne, etc. À l'époque, c'était très à la mode. Donc, voilà. Et puis, quand le poste de direction ici s'est libéré, il s'est mis sur les rangs avec
Ah, ici.
ici à l'Union-Amboise, qui à l'époque s'appelait l'Union-Amboise des producteurs de vin de Champagne. Et donc il s'est mis sur les rangs avec deux autres candidats, parce qu'ici, les décisions sont prises d'une manière collégiale. Il y a ici, donc à l'Union, il y a conseil de surveillance qui prend toutes les grandes décisions, dont celui du choix du directeur. Voilà. Et ça, c'était en 80, je crois. Oui, quelque chose comme ça, en 1980.
Et vous, à l'époque, qu'est-ce que vous faisiez avec votre diplôme d'anglais?
Ah, mais je n'ai jamais rien fait de mon diplôme d'anglais. À l'époque, j'ai donc d'abord trouvé du travail à Mussy-sur-Seine, dans une usine qui faisait des jouets, les établissements Ferriot à Mussy-sur-Seine. Et j'étais l'assistante de direction. Et puis après ça, donc j'étais enceinte de notre première fille, Alix, et je me suis arrêtée de travailler pour éviter de faire les trajets en voiture, etc. Et après, quand nous sommes arrivés ici, je n'ai pas. Donc notre seconde fille est née en 87, et je n'ai recommencé à travailler qu'en 90. Donc j'ai une bonne dizaine d'années de gap.
Et en 90.
Et en 90, alors en 87 ici à l'Union, au Boise, nous cherchions, mon mari cherchait une marque, il avait envie que cette union de coopératives sorte un peu de l'anonymat. Et donc, la coopérative a racheté une marque, donc le Champagne Devaux, à un monsieur qui s'appelait Je dis qu'il s'appelait parce qu'il est décédé depuis Jean-Paul Devaux. Et comme il était le dernier héritier de la famille Devaux, il souhaitait vendre sa marque. Donc nous l'avons acheté et en 87. Et à partir de là, il a fallu construire une histoire à partir de bases véridiques, malgré tout, puisqu'on avait retrouvé les archives. Construire une histoire, construire une marque. C'est très très long, hein. C'est vraiment. Là, ça fait maintenant plus de 20 ans et c'est vrai que c'est encore. Encore en éclosion, c'est pas tout à fait encore. La marque n'est pas encore tout à fait célèbre. Ça peut-être un jour. Mais bon. Et en 90, nous avons décidé d'être un petit peu plus ouverts sur la communication de la marque et donc de recevoir plus de journalistes. De clientèle, d'importateurs, etc. D'essayer de faire un peu plus de relationnel. Et donc j'ai été chargée de cette partie à partir de 90, puisque les réceptions se font dans une maison qui est au fond de ce jardin et que nous occupons en partie, puisque c'est notre logement de fonction. Donc c'était pratique, j'étais sur place et voilà. Donc on a restauré toute une partie de la maison uniquement à destination des réceptions, des dîners pour la presse, la clientèle. Voilà. Et donc j'étais chargée de cette partie-là dans un premier temps.
Donc votre fiche de poste, c'était plutôt...
J'avais pas réellement de fiche de poste. C'était, ouais, je m'occupais du réceptif, mais j'avais pas vraiment de nom. Après ça, la maison a décidé de créer un service qualité. Et donc là, je suis vraiment entrée dans les murs de l'Union. En tant qu'assistante qualité avec notre chef de cave.
Donc là, ça devient technique.
Ça devient plus technique et ça devient un petit peu plus ennuyeux, mais tout en continuant à m'occuper du réceptif. Et puis après ça, l'assistante de mon mari, ayant eu un, puis deux, puis trois enfants, puis ayant pris un congé maternité, lui se retrouvait un peu seul, donc m'a demandé de le rejoindre. Et ça, c'était. Qu'est-ce que je peux vous dire? On est en 2013. C'était en 95, quelque chose comme ça. Ou 80, oui, 90. Ouais. Entre 95 et 97, je dirais. Et donc, j'occupe toujours cette fonction. Mais depuis, je dirais. Alors, on est en 2013. J'essaie de retrouver les dates, c'est pas évident. 2003, ouais, ça fait une dizaine d'années maintenant. Depuis 2003, j'occupe aussi la fonction donc de responsable communication et marketing de la maison. Voilà. C'était même avant ça, puisque ça devait être en 97, parce que je me suis occupée de l'habillage de cette collection D que vous voyez là, qui n'a pas bougé depuis.
Quand vous êtes arrivé, enfin, vous avez, oui, vous êtes arrivé en 90, j'imagine que quand on arrive, même si c'est pour la réception et une partie communication, on a des idées. On voit ce qu'il y a et on se dit bien des choses.
Ben là, il y avait tout à faire, hein, parce que on avait vraiment. Enfin, bon, c'est toujours une structure coopérative, bien sûr. Mais d'un point de vue image, en tout cas, il y avait vraiment tout à faire. Le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui, tous les deux, n'existait pas. En fait, tous les bureaux étaient dans cette petite maison qui est en bord de Seine, d'Ours, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le petit canal d'Ours. Et ici, à cet endroit, il y avait un verger. Nous avions des cerises, des mirabelles, des pommes, etc. Donc ce bâtiment a été construit, oui, dans les années 95, je pense, quelque chose comme ça. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a voulu restituer une image de la maison. Nous avions cette marque de veau qu'il fallait qu'on fasse avancer, qu'on sorte de son anonymat. Et il a fallu qu'on. Voilà. Donc on a travaillé ici avec un architecte troyen, qui aujourd'hui est décédé aussi, qui s'appelait. J'ai un trou de mémoire, mais je vous le redirai. Si Dominique Honnet, que vous devez peut-être connaître, non? Donc Dominique nous avait. C'est lui qui nous a aussi restauré la partie de la maison, la partie réceptive de la maison. Et donc, on a essayé de faire des choses. C'est vrai qu'avec mon mari, on a des idées un peu atypiques par rapport à ce qui se fait dans la région. Et donc, bon, c'est vrai qu'on essayait de faire quelque chose d'un peu original, mais qui tienne dans le temps aussi. Et voilà.
Et justement, c'est bien de ne pas être dans le cliché.
Ne pas être dans le cliché champenois. Parce que le cliché champenois, particulièrement dans l'Aube, ce sont les pupitres, les tonneaux, les grappes, enfin les trucs, les paniers de vendange en osier, enfin des choses comme ça. Beaucoup de vignerons ont ça dans leur caveau. Et nous, c'est pas du tout notre histoire. En plus, c'est pas du tout notre histoire, c'est vrai, parce qu'ici, nous n'avons pas de cave enterrée. Tout est au sol, tout est technique, climatisé. On n'est pas du tout. Et donc, on ne peut là pas raconter d'histoire fausse. La vinification ici se fait dans des cuves en inox. Alors, on a aussi des foudres de chêne pour les vins de réserve, c'est vrai, mais la grande partie du vin est mûri en cuve inox.
Un
Voilà.
peu royalisé peut-être, mais le fait d'avoir cet esprit-là, est-ce que ça implique de s'orienter vers un segment particulier ou pas?
Non, non, de vente, vous voulez dire? Non, non, je ne crois pas. Non, non. Nos vins, enfin en tout cas la marque de veau, parce que nous ne produisons pas que la marque de veau ici. La marque de veau, c'est un petit peu notre cerise sur le gâteau, notre bébé, c'est vrai. Elle est particulièrement choyée. Mais ça, je vous le raconterai plus tard. Mais on produit d'autres marques ici aussi. On travaille pour le champagne Jacquard, puisque mon mari est aussi président de la marque Jacquard à Reims. Et puis, depuis quelque temps, la marque Montaudon aussi, qui était une marque locale qui a été reprise par Mouette et Chandon, que Jacquard a racheté il y a quelques années. Et puis, on fait des marques distributeurs. Donc, c'est vraiment tout à fait différent. On produit quand même, je ne sais pas, 5 millions de bouteilles par an, ici à l'Union-Amboise. Mais c'est 600 000 bouteilles de veau. C'est vraiment notre. Donc c'est notre bébé, oui, c'est notre bébé qu'on choisit particulièrement.
5 millions, ça représente un bon pourcentage par rapport au nombre de bouteilles au total produites en championnat.
Non, c'est rien, c'est lambda. Je crois que c'est 300 millions de champagne, 300 millions de bouteilles, quelque chose comme ça.
C'est déjà plus d'un pour cent.
Oui, mais c'est pas. Franchement, c'est rien. Mouette et Chandon produit 30 millions. C'est autre chose.
Mais
Voilà.
ça a l'air d'être une référence.
Oui. Ah, on est pas mal situé. Le groupe. Alors, l'Union Auboise, donc, est un groupement de coopératives, mais au-dessus de coopératives, Auboise. Mais au-dessus, il y a encore une structure qui s'appelle Alliance Champagne. Et donc, qui a été créée il y a une douzaine d'années aujourd'hui. Par l'Union Auboise, par la Cogevi, qui est située à Ailly, dans la Marne, et la Covama, qui elle est située à Château-Thierry. Ces trois entités, qui sont aussi des structures coopératives, et ces trois entités ont créé un surgroupe qui s'appelle Alliance Champagne, qui lui est propriétaire donc du champagne Jacquard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et du champagne Montaudon. Voilà. Et nous travaillons aussi pour Alliance Champagne.
Mais vous faites partie.
Mais oui, voilà, on fait partie de cette structure-là.
Ça devient très financier,
Tout à fait, c'est un montage, oui, tout à fait. C'est un peu une usine à gaz. Mais c'est comme une pyramide, hein. Voilà, c'est pas très compliqué à.
Et ça, c'est dans quel but?
L'union faisant la force. C'est vrai qu'il y a des groupes très importants en Champagne, BCC, donc MHCS, Mouette et Chandon. Il y a vraiment des, il faut se, c'est une économie dans laquelle il faut se battre un peu. Et donc plus on est fort et nombreux et mieux ça fonctionne, plus on peut parler, discuter, négocier, etc. Et se faire connaître. Donc ça, oui, c'est la raison pour laquelle Alliance a été créée.
On peut fonctionner comme une entreprise.
Chacun, en fait, comment vous dire, chacun garde quand même son autonomie. Nous avons le champagne de veau, la Cogevi a le champagne Collet, La Covama a son champagne panier. Donc ça, ce sont les trois marques qui restent au sein de l'entreprise, de chacune des entreprises. Et toutes les trois travaillent pour Jacquard et Montaudon. Voilà. Mais on a, comment vous dire, il y a une structure économique commune, mais quand même chacune des trois structures garde son autonomie économique aussi. Donc, pour partie, enfin pour la plus grande partie d'ailleurs.
Les deux marques que vous avez citées, elles ont pratiquement, il faut bien qu'il y ait du champagne dans ces bouteilles-là.
Oui.
Donc, comment il est assemblé?
Après, c'est une sélection de parcelles. Par exemple, pour Deveau, nous travaillons avec des vignerons qui volontairement adhèrent à une charte de qualité. Ici, au sein de l'Union, par exemple, nous avons depuis de très nombreuses années, parce que je sais que ça existe ailleurs, mais je pense qu'on a été les premiers, un service technique. Nous avons 6 personnes, 6 techniciens viticoles, qui se partagent plusieurs secteurs de la Côte des Bas, en fait, qui couvrent la Côte des Bas, et qui ont des vignerons avec qui ils travaillent et qui les aident à déterminer s'il doit y avoir traitement ou pas, etc. Mais en fait, qui travaillent en viticulture raisonnée. On ne fait pas de bio, on n'est pas bio. On n'est pas. On a un discours un peu décalé par rapport à la biodynamie, etc. Nous, on n'est pas du tout comme ça. Et donc, on préfère que nos vignerons, enfin que les vignerons qui sont nos adhérents, travaillent en viticulture raisonnée. Et donc, nous avons ces 6 techniciens qui sans cesse les visitent et peuvent travailler avec eux là-dessus. Et donc, le champagne de Vaud n'est produit qu'à partir de ces raisins-là. Il y a une grosse majorité de vignerons qui travaillent d'une manière totalement, je dirais, pas moins écologique, mais un peu moins attentive à l'environnement. C'est pas qu'ils ne le sont pas, mais c'est un petit peu moins pointu, on va dire. Et donc, tous ces autres raisins servent aux autres marques. Ils sont utilisés pour les autres marques. Voilà. Et après, effectivement, le champagne est un bon assemblage. Donc, après, c'est à notre chef de cave de déterminer ce qui convient ou ce qui ne convient pas en termes de... En termes de cépage, en termes de situation, en termes d'année aussi. Voilà, on fait beaucoup de croisements quand même dans une bouteille de champagne. Il y a l'assemblage de pinot noir et de chardonnay. Il peut y avoir une base de vendange, d'année de vendange, je ne sais pas, 2006 par exemple, puis d'autres, un petit peu de 2008, un petit peu de 2007. Ça dépend, c'est un peu. C'est de la cuisine.
Et justement, pour l'Alliance, qu'est-ce que vous envoyez comme champagne? Comment est-ce que ça se passe?
En fait, il y a beaucoup de bouteilles qui sont produites ici sur place. Donc ce sont tous les mous que nous n'utilisons pas pour de veau. Je ne sais pas comment vous dire, je ne suis pas très technicienne en matière viticole. Et... je sais que Jacquard, depuis qu'Alliance a racheté cette marque, a fait beaucoup de progrès. Cette marque avait une très mauvaise réputation en fait en termes de dégustation, et depuis quelques années remonte vraiment bien la pente. Ils viennent de sortir une nouvelle cuvée Alpha qui a vraiment été saluée dans la presse après dégustation, etc. Donc on essaie de travailler au mieux. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est vrai que les raisins les plus précieux sont utilisés pour de veau, ici. Je pense que c'est la même chose pour Collet chez Cogevi et pour Panier chez Covama. Et que tout le reste est assemblé au mieux de manière à ce que ça fasse les meilleurs vins possibles. Après, je pense que la différence aussi est la longueur de conservation dans les caves. D'abord en cuve, puis... à partir du dégorgement, c'est-à-dire... c'est pas grave. et c'est vrai que nous avons des bouteilles qui peuvent rester qui peuvent n'être vendues qu'après 50 caves, par exemple, et qui peuvent être conservées un petit peu plus longtemps dans votre cave personnelle.
Tout à l'heure, vous me parliez, on disait quand vous êtes arrivé, les idées que vous aviez, vous n'avez pas répondu là-dessus. Comment est-ce que vous avez trouvé la structure? Vous êtes venu, on a fait appel à vous, il fallait quelqu'un, comment ça s'est passé en fait?
Pourquoi je suis venue ici?
Voilà.
Quand mon mari a. Alors déjà, quand mon mari a pris le poste, nous avons emménagé dans cette maison qui est au fond du jardin. Donc j'étais vraiment sur place. Mais à l'époque, j'avais un bébé. Donc on m'a laissée assez tranquille. Et puis, donc quand nous avons commencé ces réceptions au pavillon, ce que nous appelons le pavillon, il a fallu que quelqu'un s'en occupe. À l'époque, il n'y avait aucune structure. On n'avait jamais fait ça, ici, dans cette maison. Donc je m'en suis occupée. D'une part parce que j'habite sur place, d'autre part parce que j'étais l'épouse du patron. et enfin parce que j'avais déjà la réputation à l'époque de faire des dîners sympas. Voilà. Donc on m'a demandé si je voulais bien. Mais ça arrivait 3 fois dans un mois. C'était pas à l'époque, on n'avait pas de réception tout le temps comme on en a aujourd'hui. Donc voilà, j'ai commencé par là. C'est tout. C'est pas. Et après. Bon, c'est difficile de dire ça sans avoir l'air un peu orgueilleux, mais c'est vrai qu'on avait. Alors, on a beaucoup travaillé, on travaille beaucoup ensemble avec mon mari, on travaille depuis toujours, en fait, ensemble. Et c'est vrai qu'on. Peut-être parce qu'on a vécu beaucoup en ville, ou peut-être parce qu'on a pas mal voyagé aussi, on a rapporté pas mal d'idées de l'étranger. On a commencé à partir, je dirais, pratiquement tous les ans en Australie, à partir des années, un petit peu avant l'année 2000. Mon mari a initié une joint venture avec un vignoble dans la Yarra Valley, près de Melbourne. Et donc, il a fallu qu'il y aille assez souvent, et je l'ai accompagné. Et c'est vrai que dans cette région, enfin, en Australie de toute façon, je pense dans toutes les régions viticoles, c'est très en avance sur nous, sur la présentation de leur vin, sur l'étiquetage, sur la manière dont ils recevaient la clientèle, etc. Très en avance. On est vraiment, c'est un peu le Moyen-Âge ici quand même. Donc on a rapporté toutes ces idées aussi. C'était une période extrêmement intéressante. Et puis voilà, ça s'est monté comme ça petit à petit. Après, on a travaillé, quand il s'est agi donc de construire ce bâtiment, on a fait appel à un architecte. On m'a demandé si je voulais bien participer au choix de l'architecte je dirais au choix des rideaux, c'est un peu ça, mais au choix de la décoration. Ça m'a vraiment beaucoup passionnée parce que c'est un de mes passe-temps favoris. Ça l'est toujours d'ailleurs. Voilà, j'ai avancé petit à petit comme ça.
Et vous faites quelque chose de contemporain? Est-ce que vous disiez qu'il y avait un conseil de surveillance, c'est ça?
Il faut être très convaincant. Mais bon, alors, quand même, le conseil ne va pas jusqu'à choisir le mobilier. Hein. C'est,
mobilier, il y a quand même le design du bâtiment et tout ça.
On leur propose leur décision, c'est le budget. En fait, il y a, à côté de ce conseil de surveillance, il y a un directoire. Donc, il y a le président du directoire, qui donc est Laurent Gillet, qui est accompagné par 2 directeurs d'autres structures coopératives qui font partie aussi du conseil de surveillance. Et donc ce sont ces 3 messieurs, ces 3 entités-là, enfin cette entité-là en tout cas, qui proposent les choix des décisions que va devoir prendre le conseil de surveillance. Une fois qu'on leur explique au conseil pourquoi on a fait le choix de tel ou tel architecte, par exemple, en l'occurrence, là, quand on a fait ces travaux, pour quelles bonnes raisons, bien sûr, et pour quelles mauvaises raisons on a, enfin, pour quelles autres bonnes raisons on a abandonné les autres choix. Très souvent, c'est une question de budget. Après ça, non, on ne leur demande pas si on met des meubles contemporains ou si on doit mettre des pupitres ou des... Non. Et puis maintenant, alors, il y a 5 ou 6 ans, on s'est attaqué aux travaux du manoir qui est de l'autre côté de la route. Ils nous connaissent très bien, tous ces gens du conseil, donc nous font confiance en fait. Voilà, ça leur plaît aussi. C'est très différent de ce qu'ils font. D'ailleurs, après ça, nous appellent pour nous demander qui est l'architecte. C'est parce que ça leur donne des idées aussi. Je pense que les esprits ont évolué depuis 30 ans. Hein. Je pense que nos vignerons aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, donc ça évolue beaucoup quand on se promène dans les maisons aujourd'hui. C'est vrai que j'exagère un peu en disant qu'il y a beaucoup de pupitres il y en a de moins en moins. Voilà, c'est beaucoup plus contemporain.
Mais avec tous les, enfin, l'ensemble des vignerons de la coopérative, il y a aussi eu une démarche à faire auprès d'eux pour en parler, etc.
Alors, tous les vignerons, après ça, non, non, pas du tout. Non, 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 non. Ils nous ont laissé faire nos travaux qui ont duré un moment. Enfin, je parle du manoir particulièrement, qu'on a ouvert il y a 2 ans en septembre. Nous ont laissé faire nos travaux. On trouvait que c'était très long. C'est vrai que les travaux ont duré pratiquement 3 ans. Donc c'est vrai que pour nous, c'était... Mais on était aussi un peu harcelés par les gens du conseil qui trouvaient que c'était très très long. Et après, on a inauguré ce manoir en invitant coopérative par coopérative les vignerons de chaque coopérative. On a fait une dizaine de soirées pour leur faire visiter, leur faire profiter du lieu, qu'ils s'accaparent le lieu, et c'était très intéressant. Et ils ont trouvé ça formidable. Donc c'était notre aval. On était un peu soulagés quand même. Ils auraient pu trouver ça horrible, mais non, ils étaient vraiment ravis. Et c'est vrai, très étonnés. Parce qu'ici, c'est contemporain, mais enfin, non, ici, à côté, c'est presque 19e siècle, à côté de ce que vous pouvez voir en face. Vous devriez aller jeter un œil, c'est très différent encore. C'est beaucoup plus contemporain qu'ici.
Et ces changements-là ont contribué à l'image de la marque.
Bien sûr, tout a été fait en fonction de l'image de la marque.
Et l'image de la marque, avant que vous arriviez, c'était quoi l'image de la
Il
marque?
n'y avait pas d'image de marque. La marque, elle est là depuis 87. Il a fallu tout construire, l'habillage, la forme de la bouteille. En fait, cette bouteille que vous voyez là, elle a été faite, c'était comme toute marque de champagne ou toute marque de vin, je pense, en France. Il y a eu une bouteille spéciale pour le passage à l'an 2000. Et donc cette bouteille-là a été faite pour ça. Et devant le succès remporté, du coup on l'a déclinée en 4 autres qualités. Et maintenant ça fait partie c'est une gamme à part entière. Mais on l'a construite à partir de ça dans les années 90, quoi. Il a fallu lui donner un look particulier, se démarquer parce que c'est... Il y a 40 000 marques quand même en Champagne. Donc il faut sortir du lot, quoi. C'est pas évident. Après, se construire un réseau, je dirais d'abord choisir une politique de vente. Donc nous, on a écarté tout ce qui est grande surface, rayon de grande surface, etc. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un champagne de niche. Après ça, avoir une politique de vente. Un peu sélective, ce qui est un luxe quand même, c'est-à-dire être sûr n'être que sur de bonnes, voire de grandes, voire de très grandes tables, de très bonnes chaînes de cavistes ou des cavistes particuliers, essayer d'être vu dans des endroits prestigieux. Donc il a fallu créer tout ça, c'est vrai. Et on est une toute petite équipe, et donc ça. En termes de communication, on est une toute petite équipe. C'est minuscule. On est 3-4 trois. Enfin, moi, je suis toute seule, mais en comptant le service commercial, allez, on est trois, quoi. C'est, voilà. Et donc, faut se montrer partout, faut être partout, il faut faire des partenariats, des mécénats sur des choses importantes. On a pu se tromper aussi sur certaines voies. C'est passionnant, mais on fait pas mal de pas avant et on en fait de moins en moins quand même, mais de pas avant et de pas arrière. Mais c'est passionnant, oui, c'est passionnant.
Qu'est-ce que vous aviez derrière la tête avec le nom de Vaux et le fait de dire il faut faire différent, parce qu'en fait le nom, que ce soit de Vaux ou un autre nom, c'est ce qu'on construit autour.
Bien sûr.
Donc, comment est-ce que vous, avec l'entourage, comment est-ce que vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait pour donner cette construction, pour donner cette image?
Ça, c'est difficile à dire parce que c'était le tout début. On avait un directeur commercial. Il n'y avait pas de service marketing, ni communication d'ailleurs. Et au tout début, nous avions un directeur commercial qui s'appelle Paul Bagnol, qui, je pense, est encore installé à Troyes aujourd'hui. Et qui au début, il était pas très loin de la retraite déjà à l'époque. Donc il avait un réseau déjà tout construit. Et je me souviens que je ne travaillais pas avec lui au tout début. Mais je sais qu'il est passé par ce réseau pour distribuer de Vaux au départ. Mais la notoriété, je dirais pas la célébrité, mais la notoriété qu'a la marque aujourd'hui, je pense qu'elle la doit plus à cette collection D qui est sortie à partir des années 2000 et qui a été repérée par la presse. Parce qu'il y a quand même, il n'y a pas mieux que la presse pour parler d'un produit. Donc on a commencé à paraître dans la presse spécialisée vin, spécialisée gastronomie, parce qu'on a commencé à avoir de vraies relations avec la presse, les inviter ici, leur faire déguster nos vins, organiser des déjeuners à Paris, parce que les journalistes parisiens, pour leur faire passer le périph, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, on a d'autres moyens. Aujourd'hui, on organise des voyages de presse, des déjeuners autour de tables étoilées. Enfin bon, aujourd'hui, on a d'autres moyens parce qu'on en vend plus. On a cette collection qu'on vend plus cher que la collection classique. Et on se donne plus de moyens, quoi. Voilà. C'est difficile de faire naître une marque. On ne sait pas trop. Oui, au départ, il faut choisir une politique de vente. Ce qu'avait fait donc Paul Bagnol. Mais là, à ce moment-là, je ne travaillais pas vraiment avec lui. Donc, je ne peux pas trop vous en dire plus de ces années-là, en tout cas.
Non, mais quand vous avez repris, la marque...
87. Moi, j'ai commencé vraiment à travailler pour la marque de Vaux. Ouais, dans les années 90, 92, quelque chose comme ça. Et travailler sur cet habillage en 98. Et à partir des années 2000, oui, ça a commencé à devenir vraiment plus intéressant. Il y a un moment, on l'a d'ailleurs refait il y a 2 ans, où il y a un moment où on décide, la maison décide de mettre un budget particulier sur un plan sur 5 ans, par exemple. Pour booster la marque, entre guillemets. Donc ça, on l'a fait récemment. On est en plein dedans, là, en 2013. Ça court jusqu'en 2015. Et donc, booster la marque, ça veut dire créer des objets avec une image un peu, pas voyante, mais un peu plus chic. On monte d'un cran à chaque fois. Donc on a créé cet étui, par exemple, on a créé une vasque particulière qui doit être dans le hall, on a créé des objets de luxe, entre guillemets, de prestige, pour faire monter d'un cran la notoriété de la marque.
Donc vous allez travailler avec des designers?
Travailler avec des designers, avec une agence de communication, Le problème étant, pour eux, c'est pas facile parce que on a des idées extrêmement précises de ce qu'on a, de ce dont on a envie. Et c'est vrai que la confrontation est toujours intéressante, mais bon, c'est vrai qu'on. Alors, mon mari et moi avons une idée très précise de ce qu'on, de ce dont on a envie pour cette marque. Et c'est d'ailleurs assez amusant parce que le fait qu'on travaille ensemble depuis si longtemps, ça, ce sont les journalistes qui me l'ont dit. Donc, en fait, donne à la marque aussi une image de vraie maison et pas de champagne de cope. Donc voilà, ça c'est. On fait partie du matériel publicitaire de Devaux.
Parce que c'est quoi? C'est un peu par rapport à une maison de champagne.
Alors il y a des maisons de champagne familiales par exemple, comme et c'est toujours un peu chouchou dans la sphère presse. Les journalistes, ils aiment bien les maisons qui sont gérées par des familles. Et par exemple, quand Pierre-Emmanuel Tettinger a racheté sa marque, enfin la marque de la famille, il y a une dizaine d'années, tout le monde a crié bravo parce que c'était très courageux de sa part. Et c'est vrai qu'il a vraiment bien managé depuis, ses enfants travaillent avec lui, etc. Bon. C'est vrai que ça, les journalistes adorent ça. Les maisons gérées par des familles. Et donc le fait qu'on travaille nous ici tous les deux ensemble, ça aide à la confusion et ça plaît bien. Voilà. Alors, ça va pas durer hein, parce qu'on n'est quand même pas très loin de partir. Encore quelques années courtes, mais après je sais pas comment on verra.
Vous n'avez pas réfléchi à l'après?
On va peut-être gérer notre présence dans les grandes manifestations, je sais pas. On verra. Oh non. Non, non, on verra bien. On verra bien. Mais non, après nous, je dirais pas le déluge, mais après, il faudra que quelqu'un, si on a quand même quelqu'un dans la maison qui est beaucoup plus jeune et qui, je pense, a bien compris l'état d'esprit de Vaud. Il faut pas non plus que les enfants doivent vivre. Hein, sans que les parents soient trop intervenants.
Si on est plus chez Devaux, chez Gillet,
Ouais,
voilà ça.
on confond pas quand même, on confond pas. On est ici, on est chez Devaux. Enfin, non. Alors maintenant, en face, on est chez Devaux. Au manoir, on est chez Devaux. Ici, on est à l'Union-Aubloise. Donc, où il y a ces trois marques importantes qui sont Devaux, Montaudon et Jacquard. Et là-bas, au fond du jardin, on est chez Gillet, où on ne parle jamais de travail. Sauf dans la partie réceptive, bien sûr, mais dans la partie privée, on ne parle jamais de travail. C'est une vieille habitude que nous avons.
Pour l'extérieur,
C'est-à-dire.
comment est-ce que l'extérieur perçoit l'union des trois noms?
Hors coopérateur, hors
Voilà.
adhérent, si vous voulez. Je ne sais pas si les gens comprennent bien. Si l'extérieur veut dire les journalistes et tout ça.
Voilà l'ensemble des gens à l'extérieur, vu de l'extérieur en tout cas.
Vu de l'extérieur. Alors, il y a déjà des tas de gens, y compris des adhérents, vignerons, qui n'ont toujours pas compris comment ça fonctionnait. Mais ça, c'est pas très grave, parce que pour eux, c'est pas très important, en fait. Quand des journalistes nous interrogent, il faut quand même reprendre la genèse à chaque fois. Sauf pour certains qui bon, ont bien assimilé le montage. Mais alors, il y a aussi, bien sûr, les journalistes qui viennent ici pour Devaux et qui finissent par interroger Laurent sur Jacquard. Bon. Mais ça, on ne peut pas l'empêcher. Et vice-versa. Quand nous participons à des voyages de presse pour Jacquard, des gens qui viennent m'interviewer sur Devaux. Bon, ça aussi on peut pas. Mais je sais pas, je peux pas vous dire. Mais c'est pas, c'est la manière dont c'est perçu, c'est pas très très important. L'essentiel c'est que ça fonctionne. Voilà.
Vous vouliez parler tout à l'heure, vous avez dit mon avis à droite sur le bio.
Oui, comment vous dire? Je n'ai rien du tout contre les gens qui font du bio. Je trouve ça même que c'est une démarche très courageuse. Mais au lieu d'utiliser des produits chimiques, ces gens utilisent du cuivre, enfin, je sais pas, des tas de trucs qui sont pas non plus terribles. Les vins se conservent pas éternellement non plus, enfin, en tout cas moins longtemps qu'un vin en biodynamie ou en viticulture raisonnée. Je pense qu'on peut être très attentif à la culture des raisins, de la vigne, sans pour cela tomber dans des vins qui sont mal filtrés ou toujours un peu acides, toujours. Enfin, moi, c'est un point de vue totalement personnel.
Je vous ai jamais parlé bio, moi,
C'est moi qui vous en parle, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on est interrogé très souvent à ce sujet, très souvent.
Et vous avez presque l'air d'être sur la défensive et.
Non, non, je ne suis pas sur la défensive, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement de défenseurs du bio. Il y a des caves, des cavistes, où vous ne trouverez que des vins bio.
Que des champagnes bio?
Ah oui, tout à fait. Vous allez à Troyes, allez chez les crieurs de vin, ne trouvez que des vins bio, y compris les champagnes. Nous sommes allés, alors je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, il se trouve que nous avons l'occasion d'aller très souvent aussi au Danemark, à Copenhague, où il y a un restaurant qui s'appelle Noma, dont vous avez sans doute entendu parler, qui a été pendant 3 ans le meilleur restaurant du monde. Donc nous sommes allés le mois dernier chez Noma, et chez Noma qui n'a, je dirais, que 2 étoiles Michelin. Et qui fait une nourriture, comment vous dire, extrêmement bio, là pour le coup. On mange beaucoup d'herbes et des fourmis, des tas de trucs comme ça. Eh bien, ils ont une carte de vin impressionnante, une carte de champagne impressionnante, et tout est bio, pareil. Voilà. Aucune chance pour nous d'être sur la carte des vins de Noma.
Mais encore une fois, vous avez l'air de ménager, de faire attention et précautions en parlant du bio comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas toucher, qu'il faut absolument.
C'est très mal vu de toucher au bio. C'est très mal vu de dire ils sont complètement crétins, ça fait des vins vinaigrés. On ne peut pas dire ça. C'est très politiquement incorrect, c'est vrai. Donc je ne le dis pas.
Mais en même temps, pour l'instant, en fait, pour faire du bon champagne qui se tient, il n'y a pas encore, pas encore de grandes maisons qui a trouvé le truc, non, c'est ça?
Oh, si, on fait. Alors, moi, quand je suis arrivée ici, dans le département de l'Aube, il y a donc plus de 30 ans, les vins qui étaient produits dans cette partie de la Champagne, parce que pour moi, il n'y a pas de Champagne de la Marne, de Champagne de l'Aube, la Champagne, c'est la Champagne. Donc, ici, c'est la Côte des Bars. Et quand je vois Champagne de l'Aube sur des cartes de restaurant à Troyes, ça m'effondre, mais bon. Et pourquoi je vous dis ça? Oui. Les champagnes de l'Aube, donc à l'époque, avaient très mauvaise réputation, qui n'était pas usurpée parce qu'il y avait beaucoup de vins trop jeunes, des bon, vinifications un petit peu à l'arrache, des choses comme ça. Les vignerons ici ont fait vraiment des progrès considérables. Il y a beaucoup de très bons champagnes dans la région, vraiment, qu'on arrive. Enfin, il n'y a plus de comparaison négative avec ce qui se fait dans la Champagne du Nord. Et des mauvais champagnes, bien sûr, il y en a encore, mais il y en a un peu partout dans la région Champagne. C'est pas. Voilà. Il y a des tas de trucs qui circulent sans étiquette et tout ça. Des trucs qu'on ne garde pas trop longtemps en cave, qui sont. On ne sait pas trop. Enfin bon, ça existe, mais ça a toujours existé, ça existera toujours. Dans la partie officielle, mais ça existe dans toutes les régions viticoles de toute façon. Dans la partie officielle, je trouve que les vignerons vraiment ont fait d'énormes efforts et font très attention à leur vinification, etc. C'est vraiment ça pour le coup, ça a vraiment beaucoup changé. Ici, beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès aussi en termes de présentation des vins. Les habillages sont beaucoup plus modernes, C'est moins, j'allais dire moins bourguignon, parce que autrefois les étiquettes étaient quand même très chargées en dorure, en arabesque, etc. Ça s'est beaucoup simplifié, non, ça gagne beaucoup en qualité, ça a vraiment beaucoup gagné en qualité ici. Ouais.
Et pour vous, qu'est-ce que vous voulez donner au produit? Enfin, c'est plutôt le champagne, c'est plutôt luxe, plutôt classe, plutôt. Enfin, comment vous définiriez
C'est amusant alors parce que en fait, le champagne, dans l'esprit des gens, c'est du luxe. C'est de la fête. Et c'est tout. Alors que il se trouve. Alors, évidemment, sauf en Champagne, où les gens boivent du champagne, pas tous les jours, mais beaucoup plus souvent que ça. Mais dans le reste du monde, on ouvre du champagne parce que c'est Noël, ou parce qu'on marie sa fille, ou parce qu'on baptise son enfant, ou parce que, voilà, parce qu'on demande quelqu'un en mariage. Ou... Et ça, cette image-là, on aimerait la faire changer. Bien sûr, c'est un luxe, étant donné le prix, mais il y a des vins qui coûtent aujourd'hui aussi cher qu'une bouteille de champagne, des vins non pétillants, je veux dire. Il y a aussi des pétillants autres que du champagne, qui sont très chers, qui deviennent très chers, le Prosecco, etc. Et nous, on voudrait faire passer l'idée que le champagne est d'abord et avant tout un plaisir. Que ça peut juste être l'occasion, le soir quand on rentre à la maison après une bonne journée de boulot, un petit verre de champagne, ça peut être aussi la récompense. À la place d'un whisky, par exemple, enfin, je sais pas. Essayer de simplifier un petit peu l'utilisation. Et beaucoup parler de la notion de plaisir, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Je pense qu'on parle trop de techniques, d'assemblage, de cépage, d'années, de millésimes, etc. Et pas assez du plaisir que ça procure de boire un verre de champagne, un bon verre de champagne, bien frais.
Comment vous communiquez dessus?
Eh bien, on va le faire. Et alors, ça n'est pas venu de chez Devaux. Il se trouve qu'il y a 3 ou 4 ans, ou même 3 ans, plusieurs femmes de la Champagne ont été prises en photo pour la Revue du Vin de France, dont je faisais partie, mais il y avait aussi la patronne de Clicquot à l'époque, la patronne de Krug, Vitalie Tettinger, justement. Enfin, on était quelques-unes comme ça, et qu'on a décidé de se revoir, et qu'on dîne ensemble, allez, je dirais 3 fois par an. Que la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est dit, tiens, voilà, on va essayer de faire passer cette notion de plaisir, d'état d'esprit de champagne, quoi. Voilà. Plutôt que. Parce que dans l'image des gens, le champagne, c'est les magnums de Moët-et-Chandon qu'on secoue à la fin du Grand Prix, ou à Saint-Tropez dans les boîtes de nuit avec les feux d'artifice. Enfin, bon, voilà. Alors que c'est. En fait, c'est pas ça, en réalité.
C'est une étude qui a été faite, ça?
Non,
Ou
non, non,
vous pensez que c'est ça?
mais oui, c'est ça. Oui, bien sûr, c'est ça. Et
Et donc de là,
ben, on va essayer de simplifier l'idée de
Et donc vous
champagne.
allez faire ça ensemble ou c'est de vous?
Non, 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 c'est plusieurs maisons, mais pas à travers nos maisons, à travers notre profession. Comment je peux vous dire? Bon, tout le monde saura que je suis Marie-Jette chez Champagne de Vaux et qu'il y aura Cécile Bonnefond ou Vitalie Tettinger ou Alice Paillard. Voilà. Mais
Serez les ambassadeurs.
voilà, nous serons plus les ambassadrices que. Nous ne serons que les ambassadrices de cette idée. On est en train de monter notre discours, voilà, d'argumenter notre discours. Donc pour nous, c'est ça l'image du champagne. C'est plus une notion de. Bon, bien sûr, ça peut être une notion de fête, naturellement. Mais je pense qu'il faut arrêter sur ce produit de luxe. Inaccessible, parce que du coup, il y a plein de gens qui n'y accèdent pas, pensant que c'est inaccessible. Alors qu'il y a des marques de champagne qui sont tout à fait accessibles, pas à tout le monde, mais à la plupart des gens, 80% des gens, des consommateurs.
Mais c'est récent que vous soyez engagé ou votre engagement date de plus longtemps?
dans moi je suis quelqu'un d'assez passionné, donc cet engagement-là, non, c'est récent puisqu'on a parlé à notre dernier déjeuner, mais tout le monde avait un peu la même idée, donc je pense qu'il y a quand même un mouvement.
Et votre engagement personnel?
Mon engagement
Est-ce que vous sentez en vous
perso,
quelqu'un d'engagé?
ah oui, en Champagne pour je suis engagée sur d'autres choses, hein. Mais en Champagne, par exemple, je vous parlais tout à l'heure du Champagne de l'Aube. Ça, c'est un truc que je rectifie tout le temps. Je supporte pas qu'on me. Alors, donc, quand je suis dans un restaurant, je fais remarquer quand sur la carte je trouve Champagne de l'Aube.
Seconde zone.
Ça fait seconde zone, bien sûr. Tout à fait. Alors, pour moi, il y a des gens pour qui c'est une fierté aussi. Et ça, je peux le comprendre. Mais avec l'histoire que nous avons ici, dans le département, je pense que ça fait seconde zone de toute façon, dans l'esprit des gens. Et en plus, en ce qui concerne nos champagnes, en tout cas de Vaud, soit il est produit avec du champagne, enfin des raisins qui viennent du département de l'Aube, mais aussi avec des raisins qui viennent du département de la Marne. Donc parler de champagne de l'Aube, c'est une hérésie intrinsèque. Voilà.
Pas de champagne de Maine, pas de raisin de Maine.
Il y a du. Alors, est-ce qu'on en a? Non, on n'en a pas. Mais on ne rougirait pas de toute façon.
Et vos autres engagements?
Alors, c'est moins un engagement, si on veut. Je suis très amatrice d'art moderne. Et donc, on essaie de faire participer de Vaud. Enfin, d'utiliser de Vaud plutôt pour aider à monter des expositions, à aider des jeunes artistes,
Moderne,
voilà.
contemporain.
Contemporain. On est partenaire, enfin mécène plutôt de l'association Renoir. Je ne sais pas si vous connaissez l'association Renoir, qui est basée à Issoire, qui avait été créée par la fille, non, c'était pas sa fille, c'était sa petite fille, dont l'arrière-petite-fille Sophie est présidente aujourd'hui. Et en fait, alors, à l'époque, quand nous avons commencé ce partenariat, qui avait été lâché par Mouette et Chandon, qui trouvait que, je pense, Mouette trouvait que les ambitions de l'association étaient un peu limitées. Mais nous, à l'époque, ça nous plaisait bien. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est associés aujourd'hui. Et en plus, c'est local, donc c'est parfait. Et à l'époque, les bénévoles, puisque c'est toujours les bénévoles, là, c'est les associations, vous en savez quelque chose, les bénévoles de l'association s'occupaient de faire visiter l'atelier d'Auguste et d'emmener les visiteurs, les quelques visiteurs qu'il y avait à l'époque, sur les chemins où il avait peint ses tableaux, enfin bon, raconter l'histoire, etc. Mais il y avait quand même un jury qui avait été constitué, et donc qui. Vous allez entendre ça sur le micro. Hein. Et donc, choisit un jeune artiste qu'on aide chaque année. Voilà. Et depuis à Issoire, il y a une structure qui s'est montée qui s'appelle Du côté de chez Renoir. Et donc, qui a repris toute cette partie atelier. En revanche, nous, on a gardé la partie jury et jeune artiste. Et je vous enjoins, le 21 septembre prochain, si vous êtes à Troyes, je vais vous donner une invitation d'aller au vernissage de la jeune lauréate de cette année, qui s'appelle Aurélie Bauer, et qui expose à la galerie Éric Dumont, rue Turenne. Et c'est génial ce qu'elle fait. Voilà, on est très contents de la parrainer. Voilà, donc on fait ça, on fait quelques expos à Paris. À titre personnel, mais j'ai quand même utilisé mon poste pour le faire. Pendant 5 ans, on avait créé un réseau d'expos qui s'appelait Art millésimé et qui, pendant une dizaine de jours, installait 20 artistes dans 20 maisons de champagne locales. Ça a bien fonctionné pendant 5 ans et puis c'était tellement de boulot que on a arrêté. trouver 20 artistes qui veuillent bien venir dans cette région qu'ils ne connaissaient pas. Il a fallu leur vendre le champagne, l'accueil, etc. Mais ça marchait bien. Et voilà. Donc ça, c'est, ça fait partie de mes engagements, oui. Et probablement de mes projets de retraite aussi.
Vous y songez ?
Ah ben oui, il faut quand même... même si... Moi, j'ai un rapport très simple avec l'âge. Hein. De toute façon, ça ne m'a jamais bouleversé de prendre un an de plus ou une dizaine de plus. C'est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière, c'est comme ça. Et donc, on est tellement occupé aujourd'hui, on a un emploi du temps tellement occupé que le jour où il va falloir s'arrêter de travailler, puisque de toute façon, il le faudra, on ne peut pas passer de tout à rien, de 10 heures de boulot par jour à rien. Donc il faut imaginer quelque chose qu'on va pouvoir faire pour se distraire, pour occuper un peu de temps, en dehors du fait qu'on a une famille, des petits-enfants, des amis, on peut voyager aussi, hein, c'est pas... Mais je pense qu'il faut quand même une activité un peu structurée. Oui, bon, ça, c'est un autre sujet.
Et depuis une trentaine d'années, vous êtes là, vous mettez souvent les pieds dans les vignes ?
Très rarement. Au début, oui, parce qu'il se trouve que donc, la famille de Laurent, à Neuville, c'est une famille de vignerons. Mon beau-père a monté ses vignes, créé ses vignes dans les années 50, quelque chose comme ça. Je pense à la fin des années 50. Qu'il a beaucoup ramé. Aujourd'hui, il y a une quinzaine d'hectares, donc 15 hectares en Champagne, ça va. Donc c'est le frère de mon mari, Emmanuel, qui a succédé à mon beau-père. C'est aujourd'hui son fils qui a repris les vignes. Enfin, on a une association familiale. Hein. C'est son fils qui est dans les vignes. Une de ses filles également qui s'occupe de toute la partie... parce qu'il y a maintenant un champagne Pierre Gillet, quelques bouteilles de Pierre Gillet, qui est essentiellement vendu aux fêtes de famille et à nos bons amis. Et donc c'est Benoîte, la sœur de Xavier, qui s'occupe de cette petite marque. Et je pense que c'est un des fils, le fils aîné de Xavier, qui a aujourd'hui 5 ans, qui reprendra l'affaire. Donc c'est une entreprise familiale. Et donc au début, j'allais dans les vignes de temps en temps pour aider aux vendanges, où j'allais au vendangeoir pour aider oui, au repas de vendange, etc. Parce que c'est encore une maison de enfin, ouais, c'est encore une famille où on accueille les mêmes vendangeurs de père en fils ou d'amis en amis depuis toujours. Donc ça, c'est très intéressant, très sympa. Vendanges, ce sont encore des vendanges à l'ancienne, en tout cas en termes de réceptif, oui, de réception. On loge les gens, on les nourrit... Ça, c'est très sympa.
Mais sinon, vous
avez... Bah, si, les vignes, je vais m'y balader. Mais je ne vais jamais y travailler, jamais. Bah non, forcément. Mais oui, on s'y promène le dimanche, on fait du vélo, voilà quoi.
Et vous allez voir le raisin ?
Bien sûr, là, bah, là, à partir... Oui, là. Mais on y va le week-end, ouais. Quand on est là le week-end. Ouais. Pas toujours évident.
Vous avez quand même dû acquérir des techniques, accumuler des connaissances, des compétences par rapport...
En termes vinicoles, non. Pas moi, en tout cas. Mon mari... Non, mais de mes mains, je ne sais pas faire. Je ne sais pas tailler une vigne, je ne sais pas faire.
Et en termes de l'eau ?
En termes d'œnologie, je ne suis pas très bonne non plus. Je fais semblant de m'y connaître, mais non. En revanche, je ne suis pas mauvaise en dégustation. J'ai le... Comment dit-on, celui qui... C'est l'innocent, vous savez, qui gagne toujours aux cartes ou aux échecs, etc. Bon. J'ai un peu cette faculté-là, c'est que je déguste pas mal à cause de ça, parce que j'ai très peu de connaissances, j'ai pas fait d'études d'œnologie. Et en revanche, je détecte toujours s'il y a un problème sur un vin ou si... aussi minime soit-il, donc ça me plaît.
Donc vous participez ?
Oui, on m'invite toujours aux dégustations. Je suis un petit peu le petit pousset.
Vous n'avez pas été tenté de vous former dans ces années ?
À vrai dire, non. Et c'est pas vraiment ma partie. Je sais que ça pourrait être intéressant, c'est vrai. On m'a jamais sollicité pour le faire. Je pense que j'ai jamais demandé à être inscrite à une formation. Il y a des formations très régulièrement à la Villa Bissinger à Épernay, qu'on fait beaucoup de, mais qui dégustent moins bien que moi. Donc finalement, je suis moins technique, plus intuitive. Et donc je reviens là sur la notion de plaisir. Je pense que la technique c'est bien, mais je trouve que, mais pour beaucoup de choses, hein, pas que pour le champagne, les connaissances techniques, je trouve que ça dilue l'intuition justement. Et c'est pas toujours. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, au tout début de notre conversation, j'étais un Verseau puisque je suis née en février, et que les Verseaux sont dits très intuitifs. Pardon.
Tout à l'heure, vous parliez du club des femmes dans le vignoble, mais est-ce que être une femme dans le vignoble, c'est quelque chose de facile ou parce que ça permet de dominer tous ces hommes qui sont autour de vous, ou
Il n'y a
alors au
pas de
contraire, c'est pas
concurrence.
forcément très.
Il n'y a pas de concurrence, on n'est vraiment pas nombreuses. En termes de management, par exemple, alors en termes de marketing, communication, etc. Oui, on est quand même un petit peu plus, enfin, dans les postes un peu subalternes, on est quand même un peu plus nombreuses. Mais en termes de management, je pense que ça doit être le même pourcentage que pour toutes les autres entreprises. Donc très peu nombreuses. Notre conseil de surveillance, par exemple, il y a 32 personnes, il y a deux femmes. Ça fait un rapport écrasant. Mais ça, c'est endémique partout, c'est dans tous les secteurs économiques de la France. Je pense que c'est comme ça.
Mais que ce soit, enfin, ça peut être partout là, mais vous, comment est-ce que vous vivez? Est-ce que c'est un challenge supplémentaire ou pas?
Non, non, vraiment pas. Je ne trouve pas. Non, non, je travaille d'égal à égal avec mes collègues masculins. Vraiment, c'est pas un souci du tout. Alors, c'est peut-être aussi parce que j'ai un âge un peu différent et qu'ils sont plus jeunes que moi et que donc parfois je les reprends sur certaines de leurs expressions. Je suis un peu féministe aussi, mais ça c'est une vieille éducation et ça les fait rire, mais quand même ils en tiennent compte. Donc voilà.
Et vous avez eu un engagement par rapport au féminisme?
Non, jamais. C'est un engagement personnel et quotidien. Mais jamais, je suis jamais allée ni manifester, ni rien. C'est peut-être la manière dont j'ai élevé mes filles. Ça, c'est un vrai engagement. Mais sinon, non, non, non.
C'est-à-dire?
Comment j'ai élevé mes enfants? Donc, j'ai deux filles, j'ai pas de garçon.
Donc Alix.
Et Margot, AUX, je précise. Je les ai élevées de telle manière à ce qu'elles soient. À ce qu'elles se sentent libres, libres et égales à leurs camarades masculins, et qu'elles ne fassent aucun complexe jamais à ce sujet, y compris dans le secteur professionnel. Et ça a très bien fonctionné. Elles ont 32 et 25 ans aujourd'hui, et elles sont pas toujours sûres d'elles parce que c'est. Ça, c'est la vie qui veut ça, mais en tout cas, elles se posent. Enfin, elles sont même pas féministes. Il y a pas de, elles se posent pas de questions là-dessus, quoi. En plus, elles vivent toutes les deux dans un pays, donc au Danemark, dont je vous parlais tout à l'heure, où l'égalité existe depuis vraiment très 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 longtemps. Donc là-bas non plus, on ne se pose aucune question là-dessus. Il n'y a pas de propos. Machiste, ça n'existe pas.
Vous disiez donc le féminisme, c'est une tradition familiale. Maman était.
Maman, oui, était comme ça. Enfin, est comme ça, oui, bien sûr. Sachant faire des concessions pour ne pas se compliquer la vie à plaisir, quand même, faut pas non plus faire la guerre tout le temps, mais ne calons pas sur les choses importantes, voilà, c'est tout.
Très bien, mais je vous remercie beaucoup.
Mais je vous en prie.